Question d'islam par Al-Bin Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam pour mémoire. C'est le titre du film réalisé par Bénédicte Pagnot à propos de l'univers islamique. C'est une pérégrination à la fois dans le temps et dans l'espace, et avec comme guide Abdelwahab Meddeb. Le regretté Abdelwahab Meddeb était le producteur originel de cette émission. En son temps, son idée, son intuition était de l'appeler « culture d'islam » avec un S, les différentes cultures de la tradition religieuse islamique qui a sous-tendu une civilisation impériale. Il se trouve que de nos jours, elle est question d'islam, le pluriel y est toujours, puisque ça couvre une gamme qui va, hélas, depuis la barbarie théâtralisée du prétendu État islamique, Daesh, jusqu'à la fine pointe du soufisme, de l'amour, de l'oblation, de la sollicitude, et en passant par l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique. Alors j'ai été long, Bénédicte Pagnot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Racontez-nous comment cette idée vous est venue de suivre Abdelwahab Meddeb, ou en réalité dans le film, c'est lui qui est votre Béatrice, si je prenais le Virgile de la Divine Comédie de Dante.
Eh ben, ma rencontre avec Abdelwahab Meddeb, elle est liée à sa voix, elle est liée à la radio, donc elle est liée à France Culture, donc évidemment, je suis très heureuse d'être devant ce micro là avec vous pour parler de ce film, parce que c'est vrai que moi j'entendais Abdelwahab Meddeb pour son émission Culture d'Islam, et c'est vrai qu'au début, n'ayant aucun lien avec l'islam, avec le monde musulman, j'écoutais ça d'une oreille, mais en même temps j'aimais beaucoup sa voix. Je crois que c'était mon premier le premier lien, et en même temps j'aimais bien ce rendez-vous avec lui à la radio, et puis au bout d'un moment ça m'a intriguée quand même. Je me suis dit mais ça fait plusieurs années qu'il est dans ma radio chaque semaine, son émission s'appelle Culture d'Islam, en même temps j'ai l'impression qu'il parle quand même assez rarement de religion. Et donc je me suis
Vous le dites dans le film,
oui,
cela.
Oui, oui, oui. Et donc je me suis dit, mais bon, alors, parce que pour moi, l'islam, c'est forcément une religion et un point, c'est tout. Donc que de quoi parle-t-il exactement? Et donc là, j'ai plus écouté. Et après, j'ai eu envie de lire ses livres. Je les ai lus. Et j'ai eu envie de faire ce film. Mais si j'ai eu envie de faire ce film, c'est surtout, je pense, parce que les questions d'islam, justement, sont très présentes en France depuis longtemps. Et que, il y avait souvent des débats un peu, que je trouvais un peu binaires autour de l'islam. Et ça me satisfaisait pas, en fait, ce que j'entendais dans ces débats, des débats d'opinion pour ceci, contre cela. Moi, je me retrouvais dans aucune des opinions. Et j'avais la sensation, en fait, qu'il fallait poser les questions autrement. Et finalement, la voix d'Abdelwahab à la radio m'a invité à ça, à me poser les questions autrement. Et donc, pas forcément à trouver des réponses dans ces débats. Mais en tout cas, ça a ouvert pour moi tout le champ de la civilisation islamique, champ que j'ignorais complètement. Et après, ça m'a invité à une sorte de voyage, à la fois un voyage spatial, historique.
Vous commencez votre film par des questions. Et vous avez raison de mon point de vue, si tant est qu'il me soit permis de cautionner, alors que je trouve le film formidable, c'est un long métrage, par des questions sur mais quelle différence y a-t-il entre la burqa, le tchador et le niqab, par exemple. C'est-à-dire que voilà des mots de la langue... des langues véhiculaires de la pensée et des cultures islamiques qui sont venues investir et qui ont infesté le champ sémantique français et dont on ne sait pas à quoi il renvoie au juste. Et vous trouvez donc une esquisse de réponse, ou carrément une réponse, dans la parole d'Abdelwahab Medeb.
Oui, mais je me rends compte, là, j'accompagne quand même beaucoup le film pour des projections un peu partout en France. Et je me rends compte que, justement, les spectateurs s'identifient à moi avec toutes les questions que je pose au début, ce qui c'était mon idée, hein, donc je suis ravie de voir que ça marche, parce qu'effectivement les questions que je me pose, c'est des questions que tout le monde se pose, enfin en France, et même pas qu'en France, parce que j'ai un petit peu voyagé avec le film, et oui, il y a des mots, il y a des expressions, il y a des idées qui sont présentes maintenant depuis des années, voire des décennies. En même temps, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et puis on continue à reproduire ça. Et en plus, plus le temps passe, moins on ose dire, mais au fait, c'est quoi un tchador ? Parce qu'on se dit, mais enfin, je devrais le savoir depuis le temps que... Mais non, en fait. Et moi, après, je réponds pas directement à ces questions-là dans le film, mais je fais des voyages qui permettent de regarder tout ça un peu différemment. Puis je fais des rencontres dans les pays dans lesquels je vais. Et ce qui fait que l'idée du film aussi, c'était que, un peu pour vraiment répondre à ces questions-là, justement, il y a plein de livres, il y a plein de gens, plein d'intellectuels ou plein de gens très cultivés qui peuvent directement y répondre. Moi, je fais du cinéma, donc j'essaie d'aider un peu les spectateurs, mais je suis pas là pour apporter des réponses.
Oui, j'entends bien. Et l'idée, c'est que vous montrez par la pluralité, en tout cas le caractère pluriel, la diversité de ce monde, que on ne peut pas le réduire à l'homogène, et comme vous appelez à chaque fois à témoin Abdelwahab Medeb, il dit que nous pâtissons du triomphe de l'homogène, alors que là il y a une réelle diversité, et donc on ne peut pas avoir qu'une seule réponse, il y a des nuances, et il y a aussi, on n'a pas affaire à un monolithe. C'est ce que vous montrez, de toute façon, je l'ai vu dans votre film.
Oui. Ben ça, c'est vrai que c'est un des points sur lequel Abdelwahab Medeb revenait très très souvent. Ça l'inquiétait beaucoup, justement, le fait que les islams, enfin ce qu'il appelait les islams locaux, disparaissent au profit de l'islam wahhabite, pour être rapide. Ça l'inquiétait beaucoup. Donc il en parlait beaucoup dans son émission, il en parlait énormément dans ses essais aussi. Et moi, je sais que j'avais vraiment la pensée d'Abdelwahab a été et continue à être très importante pour moi, mais c'était aussi une nécessité de confronter sa pensée avec du présent et avec des vrais gens, j'allais dire, enfin dans le sens, c'est pour ça que j'ai fait ces voyages, c'est pour ça que j'ai fait ces voyages en espérant rencontrer des gens. Moi, les voyages que j'ai faits pour le film, je les préparais pas vraiment. C'est-à-dire, j'avais pas déjà des rendez-vous sur place. Je partais et puis je me disais, bon, je vais faire avec ce qui se passe, en espérant que je vais faire des belles rencontres. Et ça s'est passé comme ça dans tous les pays où je suis allée. Mais c'était justement pour rencontrer des gens différents, pour, montrer la diversité humaine, la diversité, même si là c'est l'islam, mais quand même la diversité dans l'islam, la diversité des paysages, la diversité.
À la fois un lien avec la topographie des lieux, la nature, mais aussi la richesse humaine. Vous avez effectué des voyages, ce que vous appelez dans le film des pérégrinations, pas dans l'univers arabo-centré, c'est-à-dire que vous êtes allé particulièrement en Iran, et après vous êtes parti en Turquie, et... vous nous direz plus tard quel était votre sentiment dans l'univers des Perses et aussi celui des Turcs.
Oui, alors la question des voyages, moi j'avais prévu de faire des voyages toute seule, enfin, j'étais pas forcément toute seule, mais je veux dire sans Abdelwahab, et puis des voyages avec lui. Finalement, je n'ai fait qu'un seul voyage avec lui, qui est un voyage en Israël-Palestine. Donc, c'est c'est assez particulier. Tout simplement et malheureusement parce qu'il est tombé subitement malade et que 3 mois après, il disparaissait.
Et c'était donc, le 6 novembre 2014.
Exactement. Et donc, les voyages qu'on avait évoqués, on avait parlé d'aller ensemble en Indonésie où il n'était jamais allé, mais il était en contact avec des gens qui là-bas qui lui disaient que ce serait bien qu'il vienne. Et lui, il avait assez envie, donc moi je trouvais que c'était vraiment bien. Et on avait aussi évoqué le Mali, ce qui aurait permis justement aussi d'étendre géographiquement le film. Et sauf que ces voyages-là, j'ai pas pu les faire avec lui et que je n'ai pas voulu les faire sans lui. Prévu de les faire et moi donc j'ai fait que les voyages que j'avais prévu de faire sans lui. Donc effectivement, ils sont quand même, c'est le Maghreb, c'est le Moyen-Orient, et puis effectivement ça va jusqu'en Iran, mais il arrive que des spectateurs justement me reprochent, me disent mais quand même voilà, il manque l'Asie.
Et c'est vrai que du point de vue à la fois démographique et même le centre de gravité se trouve être en Asie centrale et en insule Inde, et qu'en réalité ce que d'aucuns appellent l'islam périphérique est l'islam central. Et l'élément arabe dans le monde islamique est minoritaire.
Ah voilà, après, c'est un film complètement subjectif, puisque aussi, justement, je parle à la première personne, c'est un film à la première personne. De toute façon, il était évident que ce film ne pouvait pas être exhaustif. Une fois qu'on dit qu'on fait un film sur l'islam, ou pendant un moment le film s'est appelé Un voyage en islam, enfin, je veux dire, c'est évident que je peux pas parler.
Vous savez,
de tout.
Cher Bénédicte Pagnot, je ne joue pas au pinailleur, mais le titre Islam pour mémoire, j'ai vu la traduction en arabe ou le sous-titre en arabe, c'est en toute rigueur, c'est Islam comme mémoire. Et vous lui avez donné le titre de Islam pour mémoire. Je m'étais dit, tiens, il y a une nuance quand même entre les deux titres, soit dans la langue arabe, soit en français. Et vous l'avez fait délibérément?
Non, en fait, le choix du... Moi, j'ai choisi d'appeler ce film Islam pour mémoire. Et quand j'ai voulu le faire traduire, on m'a dit, mais en fait, ça ne se traduit pas.
On aurait pu avec une petite contorsion, mais
ça avait l'air compliqué. Et effectivement, on m'a dit bon voilà, ça devient Islam comme mémoire. Alors bon, j'étais un peu troublée. Et puis voilà, moi je le sais. Du coup, je ne peux pas parler de comment résonne en arabe le titre. Moi, je peux parler de pourquoi je l'ai appelé comme ça en français, mais.
Oui. Il se trouve que les langues ont des génies propres et qu'on ne peut pas avoir nécessairement des homologies ou une bijection. Bénédicte Pagnot, vous convoquez assez souvent, pour ne pas dire tout le temps, Abdelwahad Medeb, soit par la voix, soit lui-même, quand vous le filmez. Il y a une phrase qui revient, qui est « résister à l'islamisme par la parole et par l'acte ». Donc, lui, c'est sa conviction, c'est sa militance, et vous pensez qu'il faut aller plutôt dans ce sens-là, c'est celui de la résistance à l'islamisme.
Ah bah oui, je pense ça. Ouais. Oui, c'est vrai que cette phrase, on l'entend deux fois dans le film. La première fois, c'est moi qui dis cette phrase, enfin, c'est moi qui cite Abdelwahab en disant que c'est une des phrases justement qui m'a interpellée, et je la fais à nouveau entendre vers la fin du film. Et là, c'est Abdelwahab qui dit ça lui-même dans une chronique, parce qu'il faisait donc culture d'islam, on en a parlé, mais il faisait aussi, il a fait pendant 15 ans, je crois, des chroniques pour une radio qui s'appelle Médien, qui est basée à Tanger. Et chaque samedi, il enregistrait une chronique par téléphone. Et des fois, il était au Bangladesh ou ou à Montréal, et de là-bas, il enregistrait sa chronique. Des fois, le son est pas terrible, d'ailleurs, parce qu'il est très, très loin. Et c'est... Mais bon, c'était chaque semaine pendant, je pense qu'il a fait ça pendant 15 ans. Et dans mon film, on entend beaucoup, beaucoup d'extraits de ses chroniques. Voilà.
Ses chroniques, CES ou SES, en tout cas.
Oui. Et oui, c'est important. Il y a une résistance qui est nécessaire et qui est possible. Enfin, moi, je le vois là en accompagnant le film. Je sens que c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de lieux communs ou de points de rencontre pour que les gens puissent se parler, échanger. Et quand on se retrouve dans une salle de cinéma avec des gens qui ont des histoires différentes, qui ont des origines différentes, mais qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut être fort pour combattre l'islamisme, même si on m'a reproché l'autre jour dans un débat l'utilisation de ce mot-là. Mais bon, c'est un mot effectivement un peu valise, mais qui permet de différencier islam de ses horreurs. Donc moi, je pense qu'il est assez pratique quand même.
Et... Oui, en tout cas, si on part de l'idée que le suffixe « isme » étouffe la racine, comme disent les grammairiens, certes que l'islamisme asphyxie, étouffe, dénature l'islam. Alors, les pinailleurs diront qu'il y a une nuance entre l'islamisme jusqu'au terrorisme abject, passant par le salafisme, le fondamentalisme, le djihadisme, l'extrémisme, etc. Alors, pour certains, la différence est-elle de nature ou est-elle de degré ? Il y a les germes du fanatisme et du terrorisme abject dans l'islamisme comme doctrine, en tout cas. Alors, il y a aussi une parole qui résonne dans le film, qui est l'assassinat de l'altérité. Quand il fustige, nous parlons d'Abdelwahab al-Mahdeb, les assassins de l'altérité. C'est très fort et c'est juste. C'est-à-dire que si on se complaît uniquement entre soi et qu'on oublie l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur autrui, et d'enseigner l'altérité à tout point de vue, l'altérité confessionnelle, l'altérité de genre, qui est l'altérité radicale d'ailleurs, il n'y a pas plus autre que lorsqu'on n'est pas, qu'on n'a pas le même genre, on n'est pas dans la vie est sexuée, hein, en tout cas, la vie des êtres humains. Et ça, c'est important de l'avoir mis en exergue.
Ah oui, mais moi je trouve qu'elle est très très belle cette formule, enfin très très belle, les assassins de l'altérité, ça peut pas être beau en tant que tel, mais l'association, enfin ce mot altérité en tout cas est devenu vraiment 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 important pour moi et dans l'idée de mes voyages, c'était forcément ça quoi, c'était d'être à la rencontre des autres qui sont forcément différents de moi, parce que moi je le dis dans le film, je suis française dans le sens où je suis née en France, de parents français, de grands-parents français, enfin je le dis dans le film aussi, je suis athée. Et je vais dans des pays dont je ne sais rien, et avec ce souci de me dire bon, mais les autres que je vais rencontrer, qui sont-ils, comment ça va se passer, et j'ai fait que des très très belles rencontres, et justement c'est devenu, quand j'ai fait le montage du film, c'est devenu utiliser cette formule là, les assassins de l'altérité, c'est devenu très important, parce qu'effectivement ne nous faire croire que l'autre est potentiellement un ennemi, nous faire croire qu'il faut qu'on reste enfermé soit carrément chez nous, enfin dans notre petit appartement, ou alors enfermé dans sa communauté, ou enfin je trouve ça terrible quoi, et non il faut continuer à croire en l'autre.
Nous sommes encore sous le choc du près de 20% qui sont allés au Front National lors des élections présidentielles françaises le dimanche dernier. On constate qu'un Français sur cinq, au moins, vote pour un parti nationaliste et xénophobe. La tendance semble confirmer ce qui se passe en Europe. Plusieurs pays, sont de nouveau tentés par la nation et l'exclusivisme auquel cette notion peut conduire. Les tenants de l'identité, nationalistes européens ou islamistes maghrébins, ont peur de se perdre dans la mondialité et de se trahir. Quant à nous, nous n'avons pas peur de cette aventure. Nous pouvons être enfants du monde tout en demeurant fidèles à ce que nous sommes. Nous apportons nos singularités pour enrichir l'humain, tout l'humain. Et tout apport humain est nôtre. Nous l'intégrons. Notre singularité enrichit les autres. Et leur singularité nous enrichissent. Là, toutes les valeurs se fécondent et se transfigurent. C'est cette belle aventure qui fait peur aux nationalistes, à l'islamiste.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la réalisatrice Bénédicte Pagnot, réalisatrice de fiction et de documentaire. Et c'est son documentaire consacré à l'islam, l'islam pour mémoire, et en ayant Abdelwahab Meddeb comme personnage principal, en tout cas, du film. Et c'est un hommage que nous lui rendons dans cette émission, lui qui a été la voix de cette émission longtemps. Passons cette fois-ci au poète, parce que il est écrivain, essayiste, conférencier, il est aussi poète, et vous l'avez suivi dans ses cours à l'université avec ses étudiants. Et donc sa voix résonne, et notamment, et ça c'est à vous de nous le dire, quand il s'intéresse au poète Hafez et l'engouement qu'avait pour lui Goethe.
Oui, moi je tenais absolument à filmer Abdelwahab à l'université de Nanterre, où il enseignait, parce que ça m'intéressait de le voir avec des étudiants. Pour le rencontrer, en fait, je lui avais écrit une lettre pour prendre contact avec lui, et puis comme moi je vis pas à Paris, je lui avais dit on pourrait se retrouver à Nanterre, et j'étais allée suivre un de ses cours sur les mille et une nuits, et je trouvais ça... Enfin, ça m'avait beaucoup touchée parce que les étudiants, ils étaient vraiment accrochés à ces paroles. Et puis c'est Nanterre, donc c'est-à-dire c'est une université justement très métissée, très avec des gens de plein de. Je me souviens qu'il y avait une étudiante, je ne sais pas de quelle origine elle était, mais je dirais comme ça, peut-être chinoise. Et moi, j'écoutais le cours d'Abdelwahab. Il y avait plein de mots français que je connaissais pas, alors que je suis allée à l'école en France depuis l'âge de 2 ans et demi. Et je me disais, oh là là, et je voyais cette étudiante là qui était avec son petit dictionnaire et qui essayait de comprendre ce qui, et je trouvais ça très très beau, quoi. Donc j'avais vraiment envie de filmer Abdelwahab à Nanterre, et j'ai filmé effectivement son dernier cours sur le lien entre la poésie de Goethe et celle de Hafez. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie après d'aller en Iran.
Et alors, au mausolée du poète Hafez.
Oui, oui, parce que dans plusieurs de ses livres, Abdelwahab parlait de fait que les Iraniens vont beaucoup sur les tombeaux de leurs poètes. Et je ne mettais pas en doute la parole d'Abdelwahab, mais en même temps, de France, enfin de moi, d'où je suis, je me disais, mais non, enfin oui, peut-être ils y vont une fois par an, enfin, j'arrivais pas, j'avais besoin de voir tellement c'est loin, quoi, pour moi, de... Ici, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont un peu au Père-Lachaise, mais quand même, là, en Iran, c'est vrai que c'est complètement fou, quoi. C'est pas un jour par an, c'est tous les jours, c'est des dizaines, des centaines de gens tous les jours, du matin jusqu'au soir, qui se retrouvent là, qui et c'est bouleversant. Donc,
Et des jeunes gens, garçons et filles, qui déclament de la poésie de Hafez. Vous savez, Je ne l'ai jamais fait, je ne veux pas mettre en avant ma petite personne, mais de mémoire, j'ai des vers de Hafez quand il dit « En vérité, je vous le dis et suis heureux de ce que je dis, adepte de l'amour, des deux mondes me suis affranchi. Pardonnez, Seigneur, aux hommes leur friction, n'ayant pas connu la vérité, ils s'abreuvent de fiction. » Ne juge pas les libertins inspirés, ô toi qui vantes tant ta pureté, que je sois pécheur ou vertueux, que t'importe. L'indulgence est la marque des âmes fortes. Tu devrais mieux de t'occuper de toi-même. Chacun récoltera ce qu'il sème. Chaque être aspire à l'ami, qu'il soit ivrogne ou éveillé. Partout est la demeure de l'ami, que ce soit la synagogue ou la mosquée. » Fin de citation. C'est vous qui m'avez inspiré en parlant de Hafez, et c'est vrai que notre ami Abdelwahab Medeb disait que Goethe a eu cette découverte fulgurante et que pour lui, la figure de Hafez était celle de la jouvence poétique. Il s'est immergé dans la poésie.
Oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'Abdelwahab dit à ses étudiants là dans le cours que j'ai filmé. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi quand j'étais à Shiraz, là, sur le tombeau de Hafez, c'est que on le comprend pas très très bien, je crois, malheureusement, dans le film, mais il y a cette idée que tous les gens qui viennent, en fait, ouvrent le livre avec plein de poèmes de Hafez. Alors, soit ils apportent le leur, soit il y en a un qui circule entre les gens qui sont là, près du tombeau, et que ils vont ouvrir au hasard ce livre-là, et que le poème sur lequel ils vont tomber va leur dire quelque chose de, soit d'une question qui les traverse à ce moment-là, soit les aider à prendre une décision, soit les toucher. Moi, j'ai fait ça quand j'étais là-bas. J'étais avec une jeune femme que j'ai rencontrée près du tombeau de Hafez. Et puis, du coup, elle m'a dit, ah, bah, vas-y, ouvre-le. Et donc, j'ai ouvert le livre et elle m'a lu le poème sur lequel j'étais tombée. Donc, un poème en farsi que, du coup, je ne comprenais pas et qu'après, elle m'a traduit. Et c'était fou parce qu'il n'était question que de voyage, en fait, dans celui sur lequel je suis tombée. Enfin, ça correspondait vraiment, vraiment, justement, à ce que j'étais en train de faire. À ce que j'étais en train de vivre. Donc, c'était comme ce qu'on m'avait dit.
Alors, Bénédicte Pagnot, je ne sais plus, alors là, ma mémoire me fait défaut, en regardant votre film, si c'est à Shiraz ou à Ispahan, vous êtes allé à Ispahan aussi, que vous avez rencontré un jeune homme qui est revenu tout retourné, j'ai envie de dire, converti, plutôt dans l'autre sens, après avoir fait un séjour à la Mecque et à Médine, durant le pèlerinage rituel, mais aussi, je crois qu'il a séjourné un peu plus que le temps nécessaire pour le pèlerinage, et donc il serait revenu à plus de réalisme.
Oui, c'est un étudiant, effectivement, un étudiant en géographie que j'ai rencontré à Ispahan. Et alors, il avait 16 ans quand il a fait le pèlerinage. Et il m'a dit qu'il venait d'un village iranien et qu'il avait été tiré au sort. Il y a, je sais pas, un nombre de pèlerins qui peuvent partir et du coup, il y a un système de tirage au sort et lui a été tiré au sort. Donc, il est allé faire son pèlerinage. Et il était content d'y aller. Et c'est vrai que là, il continue à être croyant. Ça n'a pas du tout remis en cause sa croyance. Mais comme là, il est devenu étudiant et qu'il a appris des choses, il a rencontré des gens qui se posent plein de questions qui se posaient pas avant. Et que du coup, il est aussi très critique du lien très fort qu'il y a en Iran entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et donc, lui, il dit qu'on fait croire aux Iraniens notamment que c'est pour sauver l'islam qu'il faut absolument justement qu'il y ait une présence religieuse forte, des mollahs puissants et tout. Et en fait, ce que dit Javad dans le film, c'est pas vrai. C'est pas ça l'idée. C'est qu'au fond, il y a des gens qui ont le pouvoir et les gens qui ont le pouvoir. Donc les gens de religion et les politiques, ceux-là, ils se cramponnent à leur pouvoir et il y a que ça qui les intéresse. Et finalement, la question de la foi, elle est malheureusement subalterne. Oui. C'est ça qui.
Javad ou Jawad est le prénom de cet étudiant et donc il s'est rendu compte, vous me pardonnez le terme prosaïque, de cette tartufferie en réalité ou cette escroquerie morale qui consiste à dire que s'ils sont là, eux, c'est pour préserver, protéger, défendre la religion de Dieu. Et étonnamment, ailleurs, d'autres régimes se disent plutôt protégés, plutôt bénis, plutôt préservés par la dite religion de Dieu, puisqu'ils la servent. C'est pour dire que dans un cas comme dans l'autre, il y a eu une manipulation éhontée. Et j'ai été frappé aussi par le fait, quand vous lui avez posé la question, est-ce que sa famille, qui est une famille religieuse, a perçu, pas sa tiédeur d'homme de foi, à la limite c'est aussi sa liberté, mais que sa vision du monde commence à changer. Et il dit oui, ils le savent. Elle le sait, sa famille, et en tout cas ses parents le savent.
Oui, il dit qu'ils s'en sont aperçus petit à petit, mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'en même temps, ils n'en parlent pas. Ils mettent pas, ils arrivent pas, ils peuvent pas en parler, quoi. Donc lui ne cache pas ses doutes, ses changements, son envie de liberté. Il dit que aussi, par exemple, il a une petite amie. Ce qui est quelque chose d'assez compliqué quand même, justement.
Et surprenant de le dire comme ça.
Oui. Et que, il l'a dit à ses parents parce qu'il voulait pas le cacher, mais en même temps, ça continue à... Enfin, il peut pas vivre cette histoire-là librement, donc ça, c'est compliqué. Il dit, je sais plus les mots exacts, mais il dit... Et ma famille est très religieuse, et là il a une sorte de soupir qui moi m'émeut beaucoup, pour dire bon, peut-être si j'étais née dans une autre famille, ce serait moins compliqué, mais là il a envie de respecter sa famille, il est pas du tout en rupture, mais en même temps il aspire à autre chose et c'est pas forcément très très simple.
Alors vous continuez vos pérégrinations, votre voyage, vos périples. Je crois que chez les puristes de la langue française, un périple, c'est quand il y a une étendue d'eau qu'on doit traverser. Et vous êtes allé un peu partout. Cette fois-ci, vous découvrez, on a eu l'occasion d'en parler dans cette émission quelquefois, l'âge d'or de la civilisation islamique et notamment des sciences. Et comme nous avons consacré une émission au physicien Al-Azan, vous en parlez dans votre film.
Oui, ben j'ai découvert ce physicien dans une chronique d'Abdelwahab sur Médien, parce qu'il faisait une chronique à propos d'un livre qui est sorti, un livre allemand, qui parle du rapport entre justement tous les travaux d'optique d'Al-Azan et puis l'invention de la perspective. Donc le livre s'appelle de Bagdad à Florence, je crois. Livre que j'ai lu après pour en savoir plus et je n'avais jamais entendu parler de ce physicien. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait d'études scientifiques non plus, c'est pas trop mon rayon, mais je me rends compte en discutant avec des gens qui ont pu faire des études scientifiques, ils ignoraient complètement l'existence de ce grand physicien. Et donc oui, dans le film, je l'évoque un peu en parlant du fait que j'ai découvert l'existence de ce monsieur. Après, je fais entendre un tout petit bout de la chronique d'Abdelwahab. Et après, je profite de ça pour parler un peu de l'art islamique, parce que justement le fait que dans la culture occidentale, dans l'héritage chrétien, du coup, enfin dans l'héritage catholique plutôt chrétien, on a un rapport à l'art figuratif qui est pas du tout le même que dans la culture islamique. Et j'essaie de parler de ça un tout petit peu dans le film, même si ça aussi c'est un champ immense et que
pour donner une idée de sa trajectoire de vie, c'est 965 Bassora, le Caire 1040 ou au-delà de 1040. Pour revenir à l'art, c'est vrai que Abdelwahab Meddeb évoque cette idée de la proscription de l'image et qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de fondement théologique, mais c'est ainsi. Bon, il y a toute une iconographie figurative, et notamment chez les chrétiens orthodoxes et dans l'univers catholique. Cela a été compensé, cette manque, en tout cas, ce manque de d'art figuratif en contexte islamique, par des ornements, par les arabesques, par toute une architecture géométrique. Et ça, vous le mettez en exergue aussi dans votre film.
Oui. Moi, j'ai filmé dans tous les lieux où je suis allée. Oui, j'ai fait des images de, parce que j'ai regardé ça aussi autrement, quoi. C'est-à-dire, j'ai regardé ces arabesques, les éliges, enfin tout ce que je voyais, comme j'avais lu Abdelwahab, je voyais la différence avec la culture d'où je viens, mais je regardais ça avec aussi beaucoup de bonheur, quoi. Donc j'avais envie de filmer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Abdelwahab le dit aussi, c'est qu'effectivement, malgré le rapport entre la figuration et l'islam, là, qui est assez compliqué, et finalement, il y a eu aussi, il le dit, une peinture figurative dans le monde musulman. Et récemment, là, j'ai présenté mon film à Genève, et j'ai rencontré des Suisseau-Tunisien, avec qui j'ai discuté, et beaucoup, c'était des gens absolument formidables, et ils me disaient que dans mon film, c'était la première fois, parce que moi je montre en fait une miniature dans laquelle on voit le prophète de l'islam, et eux m'ont dit qu'avec mon film, c'était la première fois qu'ils voyaient une représentation figurative du prophète de l'islam, qui est pas du tout, parce que des fois, il est représenté, mais il a un voile, ou on a un peu, mais là, on le voit vraiment, enfin, vraiment.
Enfin, selon la figure, les traits conçus et par l'artiste, et c'est vrai que vous faites œuvre utile, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas que les écoles de miniature, que ce soit l'école persane, tous les ateliers de Tabriz particulièrement, ou même l'école dite ottomane, bon, ont représenté le prophète, les califes, dits les mieux guidés, etc. Le Ali dans le milieu chiite, le quatrième calife, gendre et cousin du prophète. Dans certains cas, on a gratté après coup, post-eventum, j'ai envie de dire, la figure du prophète, ou on l'a remplacé par cette flamme. Le nom technique, je pense que c'est une mandrole, qui est une flamme qui remplace le visage du prophète.
Vous connaissez tous l'interdit de représentation du judaïsme, c'est le deuxième commandement du décalogue, tu ne feras point d'image. Et l'islam a partiellement hérité de cet interdit de représentation, puisque nous avons dans la tradition prophétique ce qu'on appelle le hadith, il y a toujours un chapitre sur l'image, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une phobie de l'image qui a été exprimé par le prophète de l'islam. Et très curieusement, il y a eu et peinture hébraïque et peinture islamique. Donc là, d'entrée de jeu, on peut montrer que lorsque une religion produit des faits de civilisation, ces faits de civilisation ne sont pas forcément normatifs. Et que une partie de la production civilisationnelle se fait dans le transgressif et non le normatif.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la réalisatrice Bénédicte Pagnot qui vient nous parler de son film consacré à la fois à Abdelwahab Meddeb, qui était le producteur originel de cette émission du temps où elle s'appelait Culture d'Islam. Elle s'appelle de nos jours Questions d'Islam. Bénédicte Pagnot, vous êtes réalisatrice à la fois de films fiction, de fiction et de documentaire. Et donc votre film est à la fois de l'Ouahab Medeb et aussi à l'islam, l'islam pour mémoire. Maintenant, dans cette troisième partie, si vous voulez bien, nous parlons de la pensée d'Abdelwahab Medeb, mais des temporalités. Lui-même parle des multiples temporalités.
C'est quand il parle justement de ses origines, voilà, du mélange. Il dit, je suis à la fois, justement, je viens à la fois d'islam et d'Europe. Je suis méditerranéen, tunisien, tunisois. Et c'est là qu'il dit les multiples temporalités, mais...
Voilà. Il y a aussi, ça m'a surpris personnellement quand il dit deux civilisations, l'islam et l'Europe. Et j'imagine qu'il a écrit islam avec grand I, qu'on ne perçoit pas quand il y a l'oralité. Mais alors, c'est quoi l'islam et l'Europe ? D'un côté, d'aucuns diront une civilisation sous-tendue par un fait religieux et de l'autre un continent. Mais on sait à quoi il renvoie, bien entendu.
Ça, j'en avais parlé avec lui, parce qu'effectivement, moi, au début, ça me troublait. Je trouvais ça bizarre aussi, islam et Europe. Et le cours qu'il faisait, le cours de littérature comparée qu'il faisait à Nanterre, c'était aussi ça, c'était comparaison islam-Europe. Et lui m'avait dit que c'était parce qu'il trouvait que... On dit souvent Orient-Occident et que il avait un peu envie de changer cette formule aussi parce que il disait que l'Orient se déplace en fait suivant l'endroit où on se trouve. L'Orient il est pas au même endroit et tout, et donc il trouvait que c'était plus intéressant d'être sur des idées de civilisation. Et donc, quand il dit islam avec un grand I, c'est vraiment l'islam de la civilisation islamique. Et en fait, il disait Europe parce que il voulait pas qu'il y ait les... Si on dit Occident, en fait, il y a les États-Unis, surtout le gros morceau des États-Unis qui est dans l'Occident. Et lui, il avait envie d'extraire les États-Unis, donc c'était ça. Donc effectivement, c'est un mélange. Donc c'est on va dire la civilisation islamique et puis oui la civilisation européenne. Je pense qu'il aurait pu dire ça comme ça, même si c'est peut-être un peu bizarre.
Dans mon esprit, c'était pas pour vous entendre dire que c'était bizarre. C'est simplement qu'il y a le pourtour méditerranéen et que autour de ce bassin qui se veut un lac de paix, et là ce ne fut pas toujours le cas. Cette Mare Nostrum, il y a une civilisation euro-méditerranéenne ensemencée, comme disent certains, sur le plan spirituel et religieux par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, d'expression gréco-arabe. Longtemps sur une longue ère, ERE, et sur une vaste ère, AIRE. Et donc, on peut dire que effectivement l'élément islamique a à un moment donné fécondé la civilisation humaine autour de la mer Méditerranée. C'était une question qui est surgie comme ça en écoutant le film, et c'est pour ça que je vous ai demandé de vous exprimer là-dessus.
La tombe est cimentée de frais, elle n'est encore ni cholée ni parée, elle a la forme des autres tombes, de longs rectangles étroits, 2,20 m sur 50 cm, émergeant d'à peine un empan hors de la terre, tombes humbles qui donnent aux humains une taille de géant filiforme. Celle de Boazizi est à l'extrême bord, au-dessus de nos têtes voltigent les pétales des amandiers en fleurs. À l'instar de tout persan, face au catafalque de Hafez à Shiraz, irrésistiblement ma main se tend pour s'immobiliser sur le corps de la tombe.
Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, jeune marchand ambulant, s'immole par le feu. Il meurt des suites de ses blessures le 4 janvier 2011.
C'est le grain pour les oiseaux et de l'eau aussi pour les oiseaux.
Son geste est l'étincelle qui provoque d'abord à Sidi Bouzid, puis dans tout le pays, un immense soulèvement populaire. Sommet de dégager, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, s'enfuit. Pendant la Révolution, vous écrivez « Je reste surpris par le silence des intellectuels en France, comme s'ils étaient atteints par une sidération qui les empêche de voir, d'entendre, de dire. Est-ce l'épouvantail islamiste qui leur voile le jugement? Est-ce encore la vision culturaliste qui rejette ce qui provient de la rive sud de la Méditerranée à une différence intraitable ? En raison de son étrangeté islamique. Qu'est-ce qui les prive de discerner le ressemblant dans le dissemblable? Où se sentirait-il diminué en reconnaissant une pertinence inaugurale qui ne vient pas de leur aire géographique?
Un processus révolutionnaire ne peut exister que lorsque d'un seul coup, une société, malgré, je veux dire, tous les passés, les antériorités, les lâchetés face au courage, les classes populaires par rapport aux classes bourgeoises, quand d'un seul coup, un corps social fédère dans un projet. C'est comme ça que l'événement a lieu. Et c'est ça, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, ce qui s'est passé en Tunisie, comme ce qui s'est passé en Égypte, est une véritable révolution parce que les membres épars et séparés d'une société ont eu un moment, se sont conglomérés à un moment en un corps unique et ont réagi comme corps unique.
Alors, nous passons cette fois-ci à votre voyage en Tunisie. Alors, c'est juste après la révolution du jasmin. Vous parlez aussi de Mohamed Bouazizi, vous filmez même sa tombe. Et c'était important?
Moi, je voulais absolument aller en Tunisie parce que Abdelwahab y était né. Enfin, il est, voilà. Et il y retournait très, très, très souvent. Abdelwahab, il s'était installé en France en 1967. Mais il avait toute sa famille en Tunisie. Il y allait vraiment très, très, très souvent.
À l'âge de 21 ans, parce qu'il est né en 1946.
Voilà. Donc, la Tunisie, c'était lié à Abdelwahab, évidemment. Mais il y avait cet épisode de la Révolution qui a été important, qui est vraiment important dans l'histoire récente, et qui a aussi beaucoup beaucoup passionné et touché Abdelwahab, qui a écrit un livre que moi j'aime beaucoup, Printemps de Tunis, où il parle à la fois de, enfin, un livre dans lequel il parle à la fois de ses origines, de sa famille, de son parcours, du Tunis de son enfance, un Tunis qui était quand même avec une population juive qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et il parle de cette révolution qu'il n'a pas vu venir. Il le dit très très sincèrement, mais par contre, il est allé en Tunisie dès qu'il a pu. On devait en fait aller ensemble en Tunisie en février 2011. On avait un peu parlé de ça. Et puis finalement, quand ça a commencé vraiment à bouger beaucoup, lui, il a avancé énormément son voyage et là, il m'a invité à l'accompagner parce qu'il m'a dit mais c'est énorme ce qui se passe. Sauf que moi, je pouvais pas partir à ce moment-là, donc j'ai pas
pu filmer la révolution. Mais en tout cas, lui, à ce moment-là, il a rencontré surtout plein de très jeunes Tunisiens. Et là, il était vraiment heureux des discussions qu'il pouvait avoir avec les jeunes gens. Et son livre est vraiment très beau. Donc, c'était évident qu'il fallait que j'aille en Tunisie. Et je voulais aller effectivement dans l'endroit où il y a eu l'étincelle de cette révolution, donc à Sidi Bouzide, au centre de la Tunisie. Oui, j'avais envie d'aller sur la tombe de Mohamed Bouazizi, mais je n'étais pas sûre que j'allais filmer ça. Enfin, mais finalement, c'était important pour moi de filmer ça. Et puis, Abdelwahab, lui, était allé sur cette tombe juste après la mort de Bouazizi. Et donc, j'avais un enregistrement d'Abdelwahab qui lisait un extrait de son livre « Printemps de Tunis » dans lequel il parle justement de cette tombe.
Et puis donc, des conditions, une fois réunies, qui permettent la révolution. Et c'était, de mon point de vue, d'une réelle justesse pour qu'une révolution puisse prendre.
Ouais. J'aime beaucoup aussi, tout ce qu'il dit aussi sur le silence des intellectuels en France, quand il y a eu cet énorme mouvement. Je pourrais pas redire, parce que je dirais ça très mal, mais l'analyse qu'il fait de ça, je trouve ça très beau et je trouve ça très fort. Voilà, il interroge le pourquoi de ce silence, quoi. Il dit, mais, enfin, non, faut voir le film, je vais mal le dire.
Pour le temps qui nous reste, il était aussi impliqué dans le dialogue, notamment judéo-islamique, puisqu'il a co-dirigé avec Benjamin Stora le livre sur les relations entre juifs et musulmans à travers l'histoire et même maintenant. Dans ses conférences, il présentait aussi ce livre. Je peux témoigner que j'y ai assisté personnellement, mais quand vous êtes parti en Israël-Palestine, il parlait aussi de cet ouvrage.
Oui, c'est pour cet ouvrage qu'il avait été invité là-bas. Donc, il en a parlé à Tel Aviv et à Haïfa, donc en Israël. Et lui, il aurait voulu pouvoir parler de ce livre aussi à Ramallah, donc en Cisjordanie. Mais ça, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On est allé ensemble quand même à Ramallah, où il rencontre une jeune professeure avec qui il a une discussion très, très riche.
Et très animée, parce que la dite jeune professeure était voilée.
Oui, mais elle est... Et en même temps, Et elle est féministe, elle a un discours que moi je trouve absolument très très important, très très important. Et ils discutent tous les deux. Mais par contre, il n'a pas pu présenter l'ouvrage à Ramallah, mais il le fait.
Il a saisi cette occasion pour évoquer Mahmoud Darwish et sa poésie. Donc on voit le poète qui ressurgit.
Oui, c'est vrai que la poésie c'était très très important pour Abdelwahab. Et lui a écrit de la poésie. Et c'est vrai que ça, dans mon film, il est beaucoup question de poésie, mais pas directement de la poésie d'Abdelwahab, tout simplement parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert Abdelwahab plus par ses essais, plus par sa pensée, et que c'est surtout ça que j'ai voulu mettre en avant dans le film. Mais j'espère qu'après, les spectateurs du film auront envie aussi de lire le Abdelwahab poète.
Merci infiniment, Bénédicte Pagnot. Les auditeurs iront voir le film, donc ils se feront une idée par eux-mêmes. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pascal Bénard. Et la réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lina.
أنا بالنسبة إلي أهم حاجة في الوضع الحالي كل إنسان في الملكة وفي فنه يعطي أقصى جهد للعمل وتراكم الأعمال هي اللي تنقذنا هي من الممكن أن تنقذنا هذا ولهذا الشغل موجود أمامنا والرهان قوي